Voilà. Dans l'Italie donc du XVIe siècle, dans la Florence du XVIe siècle, hein, cet état d'hier est une donnée permanente. Hein. La situation antérieure, c'est celle que Machiavel désigne dans le chapitre 20 du Prince en parlant des temps où l'Italie était d'une certaine façon en équilibre. Eh bien, cette situation-là existait avant que Charles, bon, c'est Charles VIII, roi de France, ne passe en Italie. Et c'est précisément l'arrivée des troupes françaises à l'automne 1494 qui débute hein, un processus qui, à la mort de Machiavel, il meurt en 1527, pardon, c'est il meurt deux mois après le sac de Rome, va marquer toute la période hein, et qui continue. Bon, ça s'arrête officiellement en 1559, mais en gros, c'est réglé en 1530. Il est mort depuis trois ans. Je ne vous passe pas, même pour Romain et Jean-Louis, je ne passe pas la citation de Francesco Guicciardini dans un texte de 1508 qui s'appelle Les Histoires de Florence, Storie Fiorentine, hein, qui définit le caractère de rupture de cette arrivée des troupes françaises en 1494. Il écrit ainsi, hein, avec l'arrivée des Français, était entrée en Italie une flamme, une peste, qui non seulement changea les États, mais aussi les façons de les gouverner et les façons de faire la guerre. Voilà. Donc, ces éléments-là sont... j'essaye de gagner du temps, j'enchaîne des trucs, mais ces éléments-là sont présents, voilà, pas en filigrane, hein, présents au centre des analyses du prince. Alors, une période de guerre, et une période de guerre qui bouleverse l'Italie, mais qui bouleverse aussi Florence. Donc, l'arrivée, hein, cette rupture épocale de 1494, cette arrivée, ce qui s'appelle dans l'historiographie italienne la calate, hein, la descente de Charles VIII, il descend jusqu'à Naples, et il prend l'Italie avec une craie. Avec une craie, la craie des fourriers qui marchaient sur la maison. Demain, on est là, s'il vous plaît, préparez les lits et tout ça, et le fourrage. Voilà. Alors, cette arrivée provoque deux importants changements pour la cité. Hein. Premier changement, non le moindre, les Médicis sont contraints, donc le Médicis en place, qui est le fils aîné de Laurent le Magnifique, Pierre, s'enfuit, hein, une émeute populaire, en novembre 1494, il doit s'enfuir. Ouais. Et provoque un autre aspect qui va marquer les esprits des Florentins, sur lequel je ne m'étendrai pas, qui est la rébellion de la ville sujette de Pise. Ouais. À ce moment-là, la question de la réforme du gouvernement se pose avec acuité à Florence. Parce que Florence, tout en étant, en fait, depuis 60 ans, depuis 1434, hein, 1434-1494, sous la direction réelle des Médicis, avait gardé la forme républicaine de son gouvernement. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on rétablit la forme antérieure à celle d'avant 1434, avant la domination des Médicis? Ce n'est pas cette forme qui est choisie dans le débat extrêmement vif qui se déroule dans les deux derniers mois, c'est pas les deux derniers mois pour eux, c'est les deux derniers mois pour nous, novembre-décembre 1494. Ce n'est pas ce retour avant 1434, c'est la constitution d'une forme nouvelle de gouvernement hein, qui regarde du côté des formes de gouvernement vénitiens. Qui est le Grand Conseil qui regroupe tous les citoyens aptes aux offices. Là-dedans, bon, voilà, un des auteurs qu'on a traduit, Savonarole, joue un rôle déterminant. Ce Grand Conseil va survivre à l'exécution de son principal initiateur, le frère dominicain Savonarole, qui finit mal, qu'il est pendu et brûlé. Il est brûlé après avoir été pendu. C'est un privilège d'être un prêtre. Mais enfin, il a quand même passé un mauvais quart d'heure maintenant. Et donc, ça va rester. Ce grand conseil va demeurer jusqu'en 1512, là, retour des Médicis, et là, voir l'épisode précédent, c'est là que Machiavel perd son travail. Il y avait simplement une modification institutionnelle importante en 1502, c'est la mise en place d'un gonfalonier, celui qui porte le gonfalon, donc espèce de symbole de la cité, qui est élu à vie à partir de septembre 1502 et qui est Piero Soderini, dont Machiavel sera le principal conseiller à Florence. Donc, pendant ces années au service de l'État florentin, Machiavel n'a de fait ni dormi ni joué. Ses lettres publiques et privées en font foi. Il est l'âme de la chancellerie, l'homme de confiance qu'on envoie en mission diplomatique, avec des instructions qui parfois lui demandent de faire part de ses conjonctures et de ses jugements sur la situation. Il est envoyé auprès de nombreux seigneurs italiens, auprès du roi Louis XII, du roi de France Louis XII, de l'empereur Maximilien, du pape Jules II, etc. Hein, voilà. Donc il avait l'esprit affiné, hein, parce que changer d'air et voir d'autres visages, voilà qui affine l'esprit, hein, écrivait les correspondants de Machiavel pendant qu'il était en ambassade. C'est bien là, c'est bien dans cette expérience-là que Machiavel fait la longue expérience des choses modernes. Voilà. Machiavel ne se contente pas donc, d'avoir accumulé ses matériaux et ses expériences. Hein. Il va, quand il va être au chômage, là, il ne savait plus quoi faire, donc il dit, tiens, je vais écrire un bouquin, peut-être tiens, on va le prendre pour faire une ANR. Il les élabore, il les compare, il s'appuie là-dessus, hein. Il les met en parallèle avec les exemples historiques qu'il a retenus de ses lectures des anciens, et il tend à en tirer, sinon des règles, du moins des conjectures probables, des hypothèses de compréhension du monde et des rapports conflictuels entre les États. Voilà. Bon, 15 années de pratique politique, diplomatique et militaire, on peut les définir comme le laboratoire d'où sortiront les œuvres majeures, à la condition de les mettre en regard avec l'autre fondement de la méthode, la continuelle lecture des choses antiques, et nous revenons à la lettre envoyée le 10 décembre 1513 à Francesco Vettori. Voilà. Si vous la connaissez déjà, je suis désolé, mais voilà, j'ai lu en traduction française. Le soir venu, donc, il a raconté qu'avant, il était voilà, il est à la campagne, voilà, il va discuter, il va boire des coups, il joue aux cartes, etc. Le soir venu, dit-il, je retourne chez moi et j'entre dans mon cabinet. Sur le seuil, j'enlève mes vêtements quotidiens, couverts de boue et tout crottés. Et je revêt des habits dignes de la cour d'un roi ou d'un pape. Et vêtu comme il se doit, j'entre dans les antiques cours des anciens où, reçu par eux avec amour, je me repais de cette nourriture qui est mienne et pour laquelle je naquis. Et là, je n'ai pas honte de parler avec eux et de leur demander les raisons de leurs actes. Et eux, par humanité, ils me répondent. Et pendant 4 heures de temps, je ne ressens aucun ennui, j'oublie tout tracas, je ne crains pas la pauvreté, la mort ne m'effraie pas, je me transporte tout entier en eux. Et comme Dante dit qu'il n'est pas de science sans que l'on retienne ce que l'on a compris, j'ai pour ma part noté dans leur conversation ce dont j'ai fait mon miel et j'ai composé un opuscule des Principatibus où je me plonge autant que je le peux dans les cogitations à ce sujet en discutant de ce qu'est un principat, de quelles espèces ils sont, comment ils s'acquièrent, comment ils se maintiennent, pourquoi ils se perdent. Et si jamais l'un de mes caprices vous plut, celui-ci ne devrait pas vous déplaire, et un prince, surtout un prince nouveau, devrait l'apprécier. C'est pourquoi je l'adresse à la magnificence de Julien de Médicis. Voilà. Alors, donc une mise en scène, hein, une mise en scène, début de la lettre, ouais, il boit des coups, etc. Il va discuter avec les bûcherons qui coupent son bois, il joue aux cartes, et on entend chaque point disputé, hein, alors qu'on joue pour un sou, mais on entend jusqu'à 5 cachets, on a 3 km de là, etc. Et puis Machiavel rentre chez lui et change de personnage. Hein, change de personnage. Donc mise en scène, théâtralité, une brusque transformation du joueur de cartes braillard en lettré attentif aux paroles des anciens, cela, à n'en pas douter, décrit un acte intellectuel qu'on peut situer dans la longue tradition humaniste de l'amour des textes de l'Antiquité. Amour et rapport aux textes capables de rendre les hommes meilleurs qu'ils ne le sont. Mais attardons-nous un instant sur le sens de la démarche. Il s'agit bien d'interroger les hommes de l'Antiquité afin de leur demander les raisons de leurs actes et d'en tirer des leçons pour le présent. Cette position de Machiavel relève à la fois d'une revendication de la tradition humaniste et d'une polémique vis-à-vis de la façon dont cette tradition a limité les anciens. Cette polémique, elle est développée dans le prologue du premier livre des discours sur la première décade de Tite Livre. Elle porte sur la façon dont, d'après Machiavel, la tradition humaniste a eu recours à l'exemple des anciens. Selon lui, les humanistes suivent à juste titre l'exemple des anciens en ce qui concerne les arts, la médecine et le droit, mais se refusent à le faire en matière politique et militaire. Cette erreur découle d'une façon erronée de lire l'histoire, et c'est précisément cet objectif, hein, goûter la saveur de l'histoire, qu'il se fixe comme programme en écrivant les discours. Le but de l'écriture devient, donc, dès lors, faire revivre cette antique vertu, la vertu des anciens. Il s'agit donc de lire leurs textes, de se saisir de leurs expériences, de façon à pouvoir comprendre la situation du moment, les enjeux que définit la qualité des temps, les périls que courent l'Italie et Florence. Et armé de cette compréhension, faire face et agir. Machiavel part dans un autre passage, c'est le prologue du livre du discours, précise les intentions et sa façon de concevoir son rapport au passé, en menant dans ce passage une réflexion sur la façon de louer ou de blâmer le passé et le présent. Et ce qu'il met en évidence, c'est la nécessité de partir de la conjoncture présente pour comprendre si la louange ou le blâme sont ou non légitimes. C'est en fonction de la situation historique que l'on peut louer ou critiquer à bon droit. Et c'est bien la capacité des Italiens à faire face aux armées étrangères qui amène Machiavel à revendiquer l'exemple des anciens comme une arme pour affronter les questions du présent. Cette réflexion sur le passé fait par ailleurs naître une réflexion sur la fonction éthique de l'écriture, ce qu'il nomme dans ce passage le devoir d'un homme bon. Hein, je vous lis simplement cette petite citation-là. C'est en effet le devoir d'un homme bon d'apprendre aux autres ce bien que tu n'as pu accomplir à cause de la malignité des temps et de la fortune, afin que, beaucoup l'ayant compris, l'un d'entre eux, plus aimé par le ciel, puisse l'accomplir. Donc, écrire pour que les connaissances qui naissent de l'expérience et de l'expérience des anciens puisse servir à comprendre et à agir. Machiavel veut répondre aux questions qui naissent d'une conjoncture politico-militaire qui oblige à penser l'état d'hier à l'état d'urgence. Il mène une réflexion politique fondée sur le métier qu'il a appris sur le tas. Son imitation et sa lecture des anciens part de ce socle, et on comprend dès lors que les textes de l'Antiquité dont il se sert d'abord sont, enfin, soit les textes des historiens. petit livre, bien sûr, qui est le point de départ de ses analyses, et qui était dans la bibliothèque de son papa. Mais bien d'autres reconnaissables au fil de ses citations explicites ou évidentes. Plus tard, Xénophon, Sallust, Hérodien, Polybe.